On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine est féministe.
On ne naît pas hétérosexuel, on le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Transpédéguine.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rêve
de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal, capitaliste, raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission trans PD Gwyn.
Ouais, surtout trans et Gwyn.
Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, dans On n'est pas des cadeaux, on va parler du sujet autour de l'infanticide.
Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là.
Les infos. Alors, qu'est-ce qu'il y a aux infos aujourd'hui ?
Alors, en info internationale, on a en Russie l'avion du président polonais s'écrase, on en a beaucoup entendu parler, et donc l'homophobe Kaczynski est mort. Lech Kaczynski, élu à la présidence de Pologne en 2005, catholique fervent, était connu pour être le dirigeant européen le plus fermement opposé à l'avancée des droits des homos et des trans en Europe. Ennemi du traité de Lisbonne, il avait bloqué l'adoption par son pays de la charte des droits fondamentaux en 2008. En 2007, avec son frère jumeau Jaroslaw, alors Premier ministre, il avait souhaité instaurer une loi interdisant la propagande homosexuelle dans les écoles. Opposé à l'égalité entre couples homo et hétéro, il avait interdit à deux reprises des gay pride à Varsovie lorsqu'il était encore maire de la capitale.
Donc voilà, des homophobes sont morts.
On est content.
Ensuite, en Irak, c'est l'exil pour les homos. Donc, Anour Beh Saleh est considéré comme une menace pour les autorités irakiennes. Il a été arrêté en février 2009 pour être membre du réseau d'entraide Iraqi LGBT. Il explique que la police voulait savoir où se trouvaient les maisons abritant les lesbiennes, les transsexuels, des séropositifs et des gays. Pour faire sortir Anour de prison, l'association Iraqi LGBT ont payé une caution de 5 000 $. Il a été libéré le 14 février, du coup il n'y a pas si longtemps. Et ce militant, le 14 février 2009, du coup c'est il y a un an. Et ce militant a ensuite sauté dans un avion pour Paris. Et en fait, ça fait du coup depuis plus d'un an qu'il est en France. Ensuite, il a été en Belgique, je crois. Et là, il est de nouveau en France. Donc, Iraqi LGBT demande désormais l'aide des associations françaises. Elle estime que 700 homosexuels, séropositifs et transsexuels ont perdu la vie en Irak depuis l'invasion américaine de 2003. Malgré les pressions occidentales, le gouvernement irakien refuse toujours d'assurer la protection des minorités sexuelles. En mai 2009, le Haut Commissariat aux réfugiés a exigé des signatures de la Convention de Genève qu'ils accordent l'asile aux homosexuels irakiens. Bon, on espère en tout cas que la France va accepter... et qui pourra régulariser sa situation.
On passe aux infos nationales maintenant. Alors, état civil, une avancée sans précédent pour les trans. Et encore un bel effet d'annonce du côté des ministres. Alors après Bachelot qui annonçait la dépsychiatrisation des trans, ce qui au final n'a été qu'un changement de régime pour le remboursement des soins, on dirait bien que le terme n'a pas été bien compris par la ministre. C'est au tour de Michèle Alliot-Marie d'annoncer avec force que la stérilisation ne sera plus une condition au changement d'état civil. Alors on rappelle que pour bénéficier d'un changement d'état civil, les personnes transsexuelles doivent être stérilisées, c'est-à-dire que les M2F, male to female, donc hommes vers femmes, doivent avoir fait une vaginoplastie, et les FTM, female to male, ou femme vers homme, une hystérectomie et une ovérectomie, c'est-à-dire ablation des ovaires et de l'utérus. Et on ne leur demande pas une phalloplastie parce qu'il y a eu trop d'accidents en chirurgie avec des morts et des personnes qui se sont retrouvées en fauteuil, etc. Donc le juge qui statue sur le changement d'état civil demande souvent une vérification que l'opération a été faite par des pseudo-spécialistes. Cette vérification humiliante se solde fréquemment par des viols de la part des médecins. Alliot-Marie annonce donc que l'état civil devrait indiquer le sexe dont la personne a l'apparence. Mais elle ne s'arrête pas là, la suite devient un peu drôle. Elle dit... Je cite, « L'opération de réassignation sexuelle ne doit pas être systématiquement exigée dès lors que le demandeur apporte la preuve qu'il a suivi des traitements médico-chirurgicaux ayant pour effet de rendre irréversible le changement de sexe et de lui conférer une apparence physique et un comportement social correspondant au sexe qu'il revendique. » Alors du coup, sur cette phrase, qu'est-ce qu'on a à dire? Déjà, rendre irréversible le changement de sexe par des traitements médico-chirurgicaux, c'est toujours un peu... c'est pas vraiment vrai parce que rien n'est réellement irréversible, il y a toujours moyen de faire de la chirurgie pour réparer, etc. Mais bon. Et puis, il y a un craquage en studio. Et puis... c'est lui conférer le changement de sexe, c'est lui conférer un comportement social. Alors on se demande un peu si c'est est-ce qu'elle veut que des trans MTF du coup soient vraiment des vraies femmes et des trans FTM des vrais hommes, et auquel cas c'est quoi la grille du comportement social pour savoir si on a le droit ou non au changement d'état civil. Et donc, on peut se demander ce que cette déclaration, elle va changer. Mais en fait, elle change rien, en tout cas pour le moment, puisque seuls les tribunaux décident de changer ou non les états civils. Alors, une autre information, c'est une action des Panthères Roses et d'ACT UP. Alors, c'était mercredi de la semaine dernière ou de cette semaine, je ne sais plus trop. Christine Boutin était invitée à un débat sur les évolutions de la famille par Terra Nova, qui est un groupe de réflexion de gauche tendance social-démocrate. Et l'ancienne ministre du Logement ne devait discuter qu'avec Geneviève Delezy de Parseval, psychanalyste et plutôt progressiste sur ces questions. Mais elle s'est retrouvée confrontée à une trentaine de militants d'ACT UP et des Panthères Roses déterminés à la faire taire. Discrètement, les militantes des deux associations s'étaient infiltrées dans la salle et éparpillées dans l'assistance. En arrivant, l'ancienne ministre du Logement note d'ailleurs, étonnée et ravie, qu'il y a beaucoup de monde. Et dès qu'elle prend le micro, une dizaine de militantes d'ACT UP se dressent, brandissent des pancartes et scandent « Boutin homophobe » ou « Boutin tais-toi ». Après plusieurs minutes, la sécurité éloigne les militants. Le calme revenu, Christine Boutin reprend la parole. Elle dit « Je ne tolérerai jamais qu'on dise que je suis homophobe, je ne le suis pas ». Et immédiatement, une deuxième salve de contestation arrive. Armée d'affiches, des militantes des Panthères Roses se lèvent à leur tour et scandent des slogans. Le ton monte dans la salle, les esprits s'échauffent, la sécurité se muscle et sort un à un les militants. À l'intérieur, Boutin reprend son discours devant une salle vidée d'un tiers. Dehors, tous les militants rient, plutôt contents, et le « je ne suis pas homophobe » lancé par l'ancienne ministre semble devenir la blague du jour.
Donc aujourd'hui, on va écourter notre page d'information et on finit par un petit « on en rigole ». Parce qu'on en a trouvé un cette semaine. Donc c'est selon Evo Morales, qui est président bolivien, le poulet aux hormones rend homosexuel. Donc beaucoup, beaucoup d'amalgame. En fait, alors pour recontextualiser ce qui s'est passé, au cours de son discours mardi lors de la conférence sur le climat de Cochabamba, donc le dirigeant antilibéral s'en est pris à l'alimentation occidentale transgénique, notamment au poulet chargé d'hormones féminines. Ce qui, bah, alors là on est bien d'accord avec lui, est plus que nécessaire à remettre en question. Sauf que malheureusement, il le justifie en déclarant, je cite, « Quand les hommes mangent de ces poulets, ils connaissent des déviances dans leur être masculin. » Donc ces propos et l'amalgame à peine voilé entre perte de masculinité et homosexualité ou transsexualité nous fait absolument halluciner. Et pour recadrer ce propos homophobe, César Sigliuti, président de la communauté homosexuelle argentine, a ironisé, et je cite, en suivant ce raisonnement, si l'on met des hormones masculines dans un poulet et qu'on le fait manger à un homosexuel, il va se transformer en hétéro. Donc c'est une absurdité de penser que manger du poulet aux hormones peut modifier l'orientation sexuelle d'une personne. Donc, pour ce qui est de sa critique de l'impact désastreux des modèles occidentaux sur les réalités des Boliviens, ça on comprend bien, sa critique de la malbouffe aussi, et que de produits peuvent entraîner des conséquences sur le corps humain aussi. Mais il faut vraiment arrêter les amalgames. Des hormones ne rendent pas homosexuels. Les transidentités et l'homosexualité sont construites et non naturelles. Donc c'est trop facile d'user d'arguments scientifiques sur des gènes ou des troubles hormonaux.
Le comportement homosexuel est évidemment une menace pour l'humanité. Une menace pour l'humanité.
Reportage.
Donc, on va prendre les trois quarts d'heure qui nous restent pour parler d'infanticide et des femmes actuellement incarcérées pour avoir supprimé leur vie à leur tout juste nouveau-né. Donc, c'est un sujet tabou, aussi bien dans le poids de morale qu'il trimballe avec lui que de solitude pour les femmes qui le vivent. Acte condamné sévèrement par la loi, puisque c'est considéré comme un meurtre sur un mineur de moins de 15 ans. Et ça vaut la prison à perpétuité. On considère trop souvent ce fœtus supprimé à 9 mois comme un bébé. Une sorte d'avortement différé pour les femmes qui n'ont aucun désir d'enfant. Ça vaudrait plus le coup, en s'attaquant à ce sujet, de s'axer sur les besoins et désirs de la femme et non de l'être qui n'existe pas encore. Dur quand même de le comparer à un avortement puisqu'il faut vivre une grossesse arrivée à terme, vivre l'accouchement. De la solitude en embrouille pour les femmes qui se sont fait choper, considérées comme mères, avant d'être une femme sans désir d'enfant. Des femmes incarcérées. Sujet qui est présent dans l'actualité, on parle de femmes infanticides, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots ? Des femmes qui ne sont ni coupables, ni victimes, qui sont considérées comme des monstres, tout ça parce qu'elles ne veulent pas de ce fœtus. C'est souvent corrélé avec le déni de grossesse. Mais attention, ce n'est pas la même chose. On va prendre le temps de cette émission pour comprendre, pour démêler tout ça. On va faire un pas de côté en réfléchissant à ce sujet d'un point de vue féministe. Et donc pour ça, le week-end dernier, on est allé à une conférence à la Griffe et on a rencontré des femmes, 8 femmes qui ont écrit un livre qui s'appelle « Réflexions autour d'un tabou, l'infanticide ». Et elles sont venues faire une conférence. Elles ont travaillé collectivement pendant 3 ans sur ce thème. Et voilà. Et donc cette rencontre nous a pas mal inspirés. Et c'est de là qu'on va partir, de leur réflexion aux 8. Et donc on va maintenant les écouter. Donc elles nous ont on a leur présentation de leur bouquin là qu'on va vous faire écouter. Donc place à ces femmes qui n'ont pas laissé ce sujet sous silence. Donc pendant 25 minutes.
C'est parti d'un groupe de femmes qui existait déjà, donc on se retrouvait quelques-unes, pas toutes ici, et qui avons été touchées par une histoire d'infanticide qui s'était passée à Toulouse, et par une femme donc qui avait été incarcérée pour infanticide suite à un déni de grossesse. Donc à partir de là, on avait cherché des écrits sur le déni de grossesse et l'infanticide, mais on avait trouvé surtout que des textes, et très peu d'ailleurs aussi, de psy ou de journalistes, qui nous ont pas vraiment satisfaits. Suite à ça, donc en continuant à chercher, on a reçu un témoignage qui a vraiment remis en question nous notre réflexion. Et on a été 8, donc les 8 là, à vouloir faire quelque chose pour qu'il puisse servir aussi à tout le monde, donc ce témoignage.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile. Si c'était moins difficile. S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non.
Donc moi je vais pas non plus rentrer tout de suite dans le vif du livre. On a pensé que c'était bien de faire quand même un préambule sur notre grille d'analyse, celle qui sous-tend le bouquin. Et parce qu'on est quand même 8 très différentes, mais on a quand même une base relativement commune, on peut dire, qui est sur une grille d'analyse de genre et de problématiques de genre. Donc c'est quoi ça? Donc on pense que ce qu'on appelle les hommes et les femmes ne sont pas des données naturelles, mais des constructions sociales. Et que dès la naissance, les petites filles et les petits garçons sont éduqués différemment et encouragés à se conformer à des modèles hommes ou femmes selon leur sexe biologique. Et le deuxième point, parce que c'est pas qu'une histoire de merveilleuse différence entre les filles et les garçons, cette histoire, c'est que le deuxième point important là-dedans, c'est qu'il y a la domination d'un genre sur l'autre, domination du genre masculin sur le genre féminin, et que c'est ça qu'on appelle le patriarcat. Et les femmes consacrent par jour 2 fois plus de temps que les hommes à s'occuper d'un enfant ou d'un adulte à charge, de toute façon, sur tout ce qui est le soin. Et du point de vue contraception aussi, la prise, elle est totalement, généralement prise en charge par les femmes, ce qui est relativement logique, puisque de toute façon, c'est elles qui vont s'occuper quasi exclusivement des enfants qui naissent. Et là aussi, je voulais juste essayer de vous faire imaginer un petit truc à l'envers, c'est-à-dire que si dès la naissance, les pères avaient la charge entière, et que la mère, finalement, elle faisait plus rien, à part gronder dans les cas graves et lire une histoire de temps en temps, ce qui est globalement ce que font les pères quand même, souvent, en gros. Je pense que les progrès de la contraception masculine ou la vigilance des hommes par rapport à leur fécondité auraient déjà considérablement augmenté. Alors que pour l'instant, on pourrait croire que les spermatozoïdes, ça n'existe pas. Hein.
Alors nous allons vous donner une petite définition du terme infanticide. C'est un terme que nous n'approuvons pas car on l'a trouvé culpabilisant et moralisateur. Et si on prend la définition du petit Robert... on peut lire « qui tue volontairement un enfant et spécialement un nouveau-né », exemple « mère infanticide ». Alors comme on peut le constater dans cette définition et même dans le sens commun en général, le terme infanticide renvoie à l'idée de mauvaise mère, de mère, de mauvaise mère. Alors cette définition qualifie de mère des femmes qui précisément commettent cet acte pour ne pas l'être. Ces femmes infanticides sont contraintes à être qualifiées parce qu'elles n'ont pas voulu, être mère à ce moment-là, en fait. Et elle parle d'enfant, alors que nous pensons qu'à ce moment-là, ce n'est pas d'un enfant dont il s'agit. Alors, nous avons aussi regardé d'autres termes qui existaient. Et il y a le terme néonaticide, et c'est pourtant bien de ça dont il s'agit. Enfin, c'est ça dont on va parler, en fait. Et bon, on n'a pas trouvé ce terme non plus très bien, pas mieux, en tout cas au niveau de la culpabilisation. Mais ça a au moins le mérite de faire le distinguo entre enfant et nouveau-né. Alors on s'est aussi demandé s'il ne fallait pas plutôt parler d'avortement à 9 mois, et ça ne nous a pas non plus satisfait, car lors d'un avortement, il y a une tierce personne qui intervient, et de plus, il est évident que pour les femmes qui le vivent, un avortement à 9 mois, c'est pas le même qu'un avortement à 3 mois. Nous n'avons pas trouvé non plus de terme qui remplace le mot infanticide, mais nous avons essayé de définir ce dont nous souhaitions parler, qui est acte par lequel une femme fait disparaître le produit d'une grossesse non désirée arrivée à terme. C'est des définitions qui sont froides et qui rendent évidemment pas compte des mois et des semaines de solitude et de trouille à se débrouiller comme on peut, seul, pour se débarrasser du fœtus. Elles ne rendent pas non plus compte de cette violence vécue et ni du fait que c'est la femme seule qui prend en charge le problème. En fait, les deux points que l'on a voulu exprimer, que nous avons voulu exprimer dans ces définitions, sont que ce n'est pas un enfant, mais le produit d'une grossesse, Et la femme n'est pas une victime, on ne subit pas un infanticide, contrairement à une grossesse. Nous avons quand même choisi, pour faciliter la lecture des textes, de prendre malgré tout le terme infanticide. Enfin, ce qu'il faut entendre à chaque fois derrière ce mot, c'est non pas le sens judiciaire ou commun, mais c'est notre définition.
Et donc je prends la suite, pourquoi il y a encore aujourd'hui des infanticides? Ça, c'est la question qui est posée. Nous aussi, on s'est posé, et au premier abord, ce qui vient à l'esprit, ce sont les limites à la contraception efficace, à l'IVG, et en dernier ressort, pourquoi pas l'abandon. On constate en effet que les moyens disponibles pour ne pas avoir d'enfants ne sont pas aussi performants qu'on veut bien nous le dire. De plus, il y a une hiérarchie morale dans le choix des divers moyens de contraception. La pilule, elle est aujourd'hui considérée comme le seul moyen acceptable socialement pour ne pas avoir d'enfants, et les autres recours pour interrompre une grossesse, eux, sont considérés comme des palliatifs liés à une notion d'échec de la contraception. Or, on le sait, il n'existe pas de moyen de contraception efficace à 100%. Aucune vie ne ressemble à un laboratoire. Alors de plus, l'élaboration et la mise en œuvre de ces moyens échappent aux utilisatrices. Les progrès de la science dépossèdent aussi les femmes de la gestion de leur corps. Le passage obligé par un médecin pour la contraception, la lourdeur des démarches pour une IVG font que nous sommes nombreuses à risquer d'être hors délai légal. Il faut savoir aussi que dans 94% des établissements hospitaliers, l'IVG est pratiquée en fonction des plages horaires laissées libres par les autres activités opératoires. Et la médicalisation de l'IVG a fait aussi de nous des patientes plutôt que des sujets. On est alors traité comme une malade lorsqu'on est enceinte sans le vouloir, alors que ce n'est pas une maladie. Il y a aussi l'abandon, qui serait soi-disant plus acceptable que l'infanticide au regard du sacro-saint respect de la vie à venir. En fait, c'est un acte très rare en France, et il est aussi réprouvé fortement, donc tout aussi difficile à assumer lorsqu'on est seul dans cette situation. Alors, il faut comprendre que face à une grossesse non désirée, il ne s'agit pas de faire le choix d'une technique ou d'une autre parmi d'autres solutions. La vie donc est beaucoup plus complexe, nos attitudes ne sont pas standardisées, alors que le refus, lui, reste, malgré l'évolution de la grossesse. Et aussi, il n'y a pas de désir de maternité, que l'option de l'abandon, elle, au contraire, nécessite. Alors aussi, il faut considérer l'ignorance dans laquelle nous sommes tous, hommes et femmes, concernant la sexualité. Qui en parle le mieux et où s'informer? Les films et les revues, eux, nous abreuvent de représentations de pratiques sexuelles normées, et l'éducation sexuelle, elle, reste un minima dans l'enseignement. On vient d'ailleurs d'en prendre la juste mesure avec la polémique autour d'un film présenté dans des écoles qui évoque par l'intermédiaire d'une métaphore une relation homosexuelle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On peut penser alors qu'une éducation idéale, des méthodes contraceptives ultra performantes, un accès à l'IVG facilité, eh bien il n'y aurait plus d'infanticide. Et pourquoi? Ben non. Il ne s'agit pas seulement de technologie, de régulation biologique. Si les hommes, en faisant l'amour, ne pensent pas aux conséquences possibles, et nous non plus d'ailleurs à ce moment-là, il y aura toujours la possibilité que perdurent des grossesses non désirées. Ensuite, c'est la situation sociale, économique, morale, psychique qui détermine la réponse à donner à ce problème. Le sort des femmes restant inchangé, la majorité des hommes continuant d'ignorer la souffrance d'une femme enceinte malgré elle, les risques restent les mêmes. Il n'y a donc pas de raison de penser la disparition d'une telle pratique. Donc la question n'est pas pourquoi encore des infanticides aujourd'hui, mais pourquoi condamner des femmes pour refus de maternité.
Non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête? Tu ne seras pas mon centre, que savent-il de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis dans d'autres choses? Non, non.
La question qui nous a ensuite intéressés, c'est pourquoi l'infanticide est aussi mal vu? Pourquoi est-ce qu'il est aussi réprouvé? Pourquoi est-ce qu'on rappelle à des femmes qui ont refusé une maternité à ce moment-là qu'elles doivent être malgré tout des mères. Ça, on le voit par exemple dans les titres de journaux qui parlent d'infanticide. On a toujours la mère de famille qui a tué ses bébés. Et à ça, il y a tout un arrière-plan qu'on a essayé de démonter petit à petit, enfin de démonter, d'interroger en tout cas. Il y a un premier arrière-plan, c'est qu'on est dans une société qui a des valeurs natalistes. Donc depuis un siècle, on encourage la population à faire des enfants. Il y a de nombreuses mesures derrière. Bon, la plus exemplaire, c'est celle de la fête des mères. Et ce, dans le même temps où on reflue aux frontières des enfants qui viennent d'ailleurs. Donc ce qui est attendu, ce qui est encouragé, c'est faire des enfants qui soient français. Et donc il y a sûrement derrière ça la reproduction d'une identité à assurer. Et faire des enfants, c'est donc présenté comme une nécessité dans nos représentations, une nécessité qui est qu'on ressent. Hein. On est en général plutôt joyeux. On félicite les gens qui attendent des enfants, etc. On ne va pas féliciter quelqu'un qui va avorter. Hein, c'est le système de valeurs. Il est dans un sens, et pas dans l'autre. Hein. Avec l'arrivée de la pilule dans les années 60, puis l'accès facilité à l'IVG, on aurait pu penser que ça aurait modifié notre attitude face à cette nécessité de la reproduction. Parce que les femmes ont plus de choix, ou semblent avoir plus de choix en tout cas, et moins d'obligations à faire les enfants qu'elles ne veulent pas. Mais en fait, il se trouve que le choix que les femmes font en très grande majorité, de fait, hein, c'est de faire des enfants. Alors certes, un petit peu moins. Mais quand même, elles en font presque toutes. On en fait presque toutes. Y a un chiffre qui nous a vraiment étonnés, c'est que des femmes nées en 1940, il y en avait 90% qui sont devenues mères. Et des femmes nées en 1960, c'est toujours 90%. Donc le changement qui aurait pu être porté par le slogan des années 70, un enfant quand je veux, si je veux, eh ben, en fait, ça s'est transmis par un enfant quand je veux et pas si je veux. Donc faire des enfants, c'est quelque chose qui est considéré comme normal, c'est quelque chose qui est considéré aussi, une deuxième chose, qui est considéré comme désirable. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qui vont participer à notre épanouissement, hein, notre épanouissement personnel, contient le fait, à un moment donné, de connaître cette joie immense qui est d'avoir des enfants et être une femme accomplie. Et ça passe par ce bout-là de l'identité de femme qui est d'être mère. Alors, bon, cette sacralisation du rôle de mère, ça ne date pas des années 60. Ce qu'on voulait juste montrer là-dedans, c'est que l'accès à la contraception, à l'IVG, n'avait pas changé grand-chose à cette sacralisation du statut de mère. Mais on hérite aussi d'une histoire qui est plus ancienne, qui vient du 19e siècle, qui est l'idéologie autour du modèle familial bourgeois qui fait de la mère un statut à part entière. Et ça influence beaucoup nos représentations. C'est pas quelque chose qui a disparu. Au contraire, c'est de cette idéologie-là que vient aussi l'idée que les femmes seraient mères naturellement. En regard, alors c'est là que c'est parlant, hein, il nous semble, hein, c'est que la paternité, elle, n'est pas naturelle. Elle n'est pas présentée comme naturelle. Elle est à construire. C'est pas parce qu'on a un utérus qui peut porter des ovules fécondés par des spermatozoïdes que forcément on se projette comme mère. Mais c'est pourtant ce qui est attendu des femmes. Et c'est sans doute un des éléments qui font que le refus de maternité qui passe par l'avortement et plus encore par l'infanticide porte atteinte à cette image. Mais là où c'est paradoxal, c'est qu'il y a une autre injonction sociale avec laquelle on doit faire, c'est qu'on doit quand même assurer la régulation des naissances. Alors il y a une moitié de la population qui doit l'assurer, ce sont les femmes. Mais on doit assurer la régulation des naissances en positif et en négatif. Hein. On est censé faire des enfants, certes, mais quand même pas tous les enfants qu'on peut porter. La contrainte, c'est que c'est pas n'importe comment. Parce qu'il y a une hiérarchie dans les moyens de refuser les naissances, enfin de réguler les naissances. Hein. Nous, ce qu'on a recherché, c'est est-ce que cette hiérarchie-là, elle était évidente? Est-ce qu'elle était naturelle? Et en interrogeant un peu l'histoire, en interrogeant aussi peut-être d'autres sociétés, on s'est aperçu que ça va pas forcément de soi, hein, qu'il y a des moments où, dans l'histoire de France, l'infanticide a été toléré. Même si c'était caché ou disons qu'il y avait un certain silence dessus, mais il n'y avait pas de condamnation spéciale. Dans d'autres sociétés, ben, ça fait partie des moyens de réguler les naissances. Alors, c'est donc qu'il s'agit bien d'un système de valeurs, de morale, qui font qu'il y a des choses qui sont des attitudes face à la régulation des naissances, face à la procréation, qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas.
Non, non, tu n'as pas de mots. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise. Et d'instinct, je te résiste. Depuis si longtemps, j'existe. Depuis si longtemps, je t'aime. Mais je te veux sans problème. Aujourd'hui, je te refuse. Qui sont-ils, ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Mais il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est le statut de l'enfant. Et comment l'enfant est considéré dans notre société?
Alors on l'a dit dans nos réflexions autour de ce livre, ça porte sur la situation du refus d'une grossesse, même à terme. Alors c'est pourquoi même le terme infanticide est incorrect, surtout ce qu'il suppose qu'il y ait un enfant, puisque littéralement cela signifie tuer un enfant. Or, il n'y a pas d'enfant et on essaie de savoir justement, notamment par la confusion des mots employés, nouveau-né, nourrisson, bébé, enfant, qui à chaque fois en fait sont des désignations subjectives qui donnent un sens et de ce qu'on veut dire derrière ce mot. Alors comme exemple, c'était entendu à la radio, en direct sur les lieux d'un fait divers, un journaliste met son micro et enregistre la déclaration d'un voisin. Celui-ci dit « J'ai ouvert le coffre et là, dans une poche, il y avait un fœtus ». Et le journaliste reprend et lui demande « Alors c'est vous qui avez découvert le bébé ?» Et on a vu aussi, bon ça sans compter, tu l'as dit aussi, lorsqu'on parle de ces cas-là, elle a tué ses enfants. Voilà. Donc la définition en fait de l'enfant est arbitraire et varie selon l'époque, le pays, la culture, la religion. Le statut de l'enfant et sa valeur sont en effet aussi des constructions sociales. Au Moyen-Âge, le repère c'était la date d'introduction de l'âme dans le corps. Alors c'était de 40 jours pour un garçon, 80 pour la fille. Aujourd'hui, en fait, c'est la science qui édicte les règles. Elle remplace la religion et elle nous dit que de plus en plus tôt, avec la fiabilité du fœtus, eh bien, c'est le comité d'éthique qui lui le déclare et il parle des embryons et il nous parle de personnes humaines potentielles. C'est sa définition. Et cette expression, ben, c'est bien une interprétation subjective du choix de décréter que là, il y a vie ou là, il n'y a pas. Parce que qu'on le veuille ou non, et ça, c'est jamais la vie potentielle qui choisit. C'est-à-dire que c'est pas le fœtus ou l'embryon, ni le nouveau-né qui est en capacité de dire s'il va vivre ou pas. Voilà. Alors, dans le cas d'une IVG, c'est la loi, elle, qui détermine la tolérance, le délai admissible par les autorités compétentes pour mettre fin à une grossesse. Alors là aussi, je trouve que la variation des délais d'un pays à l'autre montre bien l'arbitraire de ces lois. Ça peut aller de 14 à 28 semaines et même au-delà selon les pays. Alors cependant, dans notre société, en général, dans les pays riches et occidentaux, la sacralisation de l'enfant est apparue en même temps que les progrès sur les méthodes de régulation des naissances. L'enfant, alors, s'il est plus rare, soi-disant, il devient précieux, c'est un enjeu social, il doit réussir, et surtout, il représente l'identité et la culture de ses ascendants, comme tu le disais tout à l'heure. Alors, quant au respect de la vie, bon, bah, alors, je pense quand même qu'il n'y a quand même pas grand discours à dire pour s'apercevoir que la même société qui défend la vie du fœtus, qui lui donne une existence juridique, qui condamne les femmes qui le refusent, elle-même est productrice de mort, fabrique des armes pour les détruire partout dans le monde, élabore des poisons à court et moyen terme, met en danger les enfants par le saturnisme, par le plomb par exemple, les adultes avec l'amiante, l'irradiation, etc. Donc on s'aperçoit que le progrès scientifique aussi a une façon de changer les choses et notamment d'introduire une attitude nouvelle dans la prise en charge de la femme enceinte. Ça c'est avec les techniques d'échographie. C'est un outil en fait qui fait exister un être non-né. En consultation aujourd'hui, on parle de deux patients, la mère et le fœtus. Avant cette pratique, le médecin, lui, recevait en consultation une patiente dont il surveillait la santé tout au long du processus de la grossesse. Aujourd'hui, il consulte deux patients et il les traite séparément en suivant la santé de l'une et de l'autre. Quelle autre, justement? C'est celui qui le fait exister. Le médecin s'arroge, au nom du fœtus, un pouvoir sur sa patiente, la femme enceinte. Il lui impose des restrictions, comme de ne pas fumer ou boire, mais non pas pour elle-même, mais pour l'être potentiel qu'elle héberge. Alors donc, c'est une certaine façon d'extirper du corps de la femme une partie d'elle-même et d'en faire une entité séparée, alors qu'il n'en est rien en réalité. Dans l'affaire Courgeot, on a fait reconnaître en paternité et donc nommer et enregistrer à l'état civil les deux petits corps congelés, ce qui a permis de dire au juge « Vous avez tué Alexandre et Thomas ». Voilà, la grossesse donc peut être un accident, et en tout cas c'est une réalité indésirable dans certains cas, et il faudrait savoir qui décide de ce qui est un enfant et qui ne l'est pas. Et là, bon, y a pas de, c'est jamais la première concernée seule. La société a construit autour de la femme enceinte un système de contrôle, de surveillance, où interviennent médecins et juristes. Ce sont eux qui gardent le pouvoir de décider du sort d'une femme, de son avenir de mère. Alors si c'est une autorité scientifique par exemple, elle se donne le droit de mettre fin à la vie du fœtus, et cela sans aucune restriction de délai. Dans le cas par exemple des interruptions médicales de grossesse, le médecin peut intervenir et même à terme. Alors on dit que c'est la femme qui décide, hein. Seulement bon, elle ne peut donner que son consentement face aux allégations scientifiques de ses experts. Elle n'est pas, elle, experte dans ce système. Par contre, si on en croit des spécialistes, ils nous disent qu'il ne suffit pas d'être enceinte pour attendre un enfant. Il faut qu'il y ait reconnaissance par la mère au moins du projet d'enfant et que son existence soit énoncée, donc assumée. C'est pourquoi on est d'accord et on dit qu'il n'y a pas de moment naturel à partir duquel on peut parler d'un enfant.
À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence.
Donc nous, pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir interroger notre rapport individuel et collectif à l'infanticide et plus largement à tout ce qui fait d'une femme, une mauvaise mère. Comment chacun et chacune d'entre nous sont traversés par ces questions? Comment ces histoires ne sont pas seulement des histoires individuelles, mais des histoires collectives? Des histoires de femmes isolées, en détresse face à la maternité et au peu de marge de manœuvre que chacune d'entre nous a dans certains moments de sa vie. On souhaitait revenir sur la fabrication du monstre, des contre-modèles, sur la façon dont on stigmatise, diabolise certaines femmes qui deviennent des monstres, monstres que nous sommes jamais, toujours définies comme différentes de nous, comme anormales. Et du coup, il existe beaucoup de contre-modèles, les femmes infanticides, mais aussi les femmes, les mauvaises mères, les prostituées. Et ça, c'est autant de contre-modèles qui permettent de délimiter les contours de ce qui devrait être une bonne femme. il existe une nécessité collective et donc individuelle à se définir en opposition à ces modèles, ce qui implique de bannir ces femmes plutôt que d'essayer de les comprendre, que la seule possibilité de les comprendre, c'est de les mettre dans une case qui est celle de la maladie mentale, enfin encore une case qui est loin de la plupart d'entre nous. Et du coup, nous, il nous paraissait nécessaire de chercher à comprendre ce qui se passe dans la vie de ces femmes, de les regarder avec un autre regard et de créer des solidarités. Donc on souhaitait ce soir, et par cette discussion et aussi par l'écriture de ce livre, rendre contagieuse notre réflexion autour de cette question, mais aussi lever le tabou et interroger le monde qui pousse encore aujourd'hui des femmes à commettre des infanticides et à être condamnées et enfermées pour ça.
Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine, non, non, tu n'as pas de nom. Tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Alors, vous êtes sur Radio Canu dans l'émission On n'est pas des cadeaux. Donc on vient d'entendre le reportage de la présentation de ces huit femmes qui ont écrit le livre Réflexion autour d'un tabou, l'infanticide. Et il y avait au milieu de ce reportage la chanson d'Anne Sylvestre, Non, tu n'as pas de nom.
Donc on va revenir sur plusieurs points. Et d'abord, on fera ajouter quelques trucs autour de la régulation des naissances.
Ouais, c'est-à-dire que à partir de 1870 et avec les deux guerres mondiales qu'on suivi, il y a eu vraiment une injonction à avoir des enfants, à être mère. Il y avait un réel enjeu de l'État parce qu'il voulait de la chair et canon, il voulait des soldats pour défendre sa nation. Et donc à partir de ce moment-là, l'avortement et l'infanticide ont été considérés comme des crimes contre la sûreté de l'État. Et tous les deux sont devenus passibles de la peine de mort. Donc on voit bien ici le pouvoir qu'a l'État sur le corps des femmes. C'est bien à lui que les enfants et les femmes appartiennent et doivent obéir. Et puis c'est à cette même époque qu'il y a aussi une injonction à l'hétérosexualité de plus en plus forte. Et c'est surtout à travers l'Église qu'on peut le voir en France. Le sexe n'a jamais alors été encouragé par l'Église, mais comme il s'agit à ce moment-là de repeupler la nation, elle va commencer à soutenir l'hétérosexualité pour la reproduction.
Ok, et donc on voit bien régulation des naissances, injonction à produire des enfants pour les femmes et à avoir ce statut de mère, parce que une femme sans statut de mère, au final, c'est pas viable, pas assez en tout cas. Mais on voit bien que c'est pas pour toutes. Donc c'est effectivement aussi l'enjeu de l'identité nationale. Donc, des enfants, on encourage les femmes françaises et bien évidemment blanches à faire des enfants. Et parce qu'on voit bien que, par exemple, dans les dom-toms, ce n'est pas du tout la même politique de régulation des naissances. Donc, les politiques, les mêmes sont pour en France. Métropolitaine, les mêmes sont contre dans les dom-toms. Donc là, je fais référence à un article qu'on peut trouver dans le livre Avorter, histoire des luttes et des conditions d'avortement des années 70 à aujourd'hui. Et c'est un article de Maria Elemva, extrait du journal Sans Frontières, du coup, qui date de 1979. Où elle parle du coup de Michel Debré, qui est député RPR de La Réunion. Et du coup, là-bas, la lutte des féministes, c'est plutôt contre l'avortement forcé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des femmes racisées, on les encourage beaucoup plus à la stérilisation, beaucoup plus. Du coup, on va stériliser de force, on va faire avorter de force. Et donc ça, on le retrouve bien évidemment aussi dans plein d'autres pays et continents, et aussi en Afrique. Et en Afrique, il y a aussi quand même un truc de plus, c'est que les médicaments que nous avons ensuite en Occident sont testés d'abord sur les femmes africaines, donc les pilules, etc. Et donc on voit bien que ce n'est pas les mêmes injonctions en fonction de où on est géographiquement et qui on est et qui on représente pour, là on va parler en tout cas de la France, pour les gouvernements français.
Eh bien, on va continuer à aborder d'autres points, mais là, on va écouter une chanson.
Donc, c'est une chanson qui est d'abord, qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfant », qui est une chanson de Taschen. Et là, elle est reprise par deux féministes.
On enregistre. Silence!
Je ne veux pas d'enfants, pas de fruits à mon arbre, à mon chêne, pas de gland, à mon utérus, pas de barbe. Je ne veux pas d'enfants pour consoler ma mort. Pas de petits mutants, pas de petits médors. Je ne veux pas d'enfants qui sèchent au tableau noir, à la guerre de 100 ans au fond d'un réfectoire. Pas d'enfants au curé, au gradé, au bidas. Pas d'enfants au piquet, ni première de la classe. Je ne veux pas d'enfants qui pleurent ou qui babillent et dont on sera fier quand il fera souffrir les filles. Je ne veux pas d'enfants pour réussir mes rêves, les rêves des parents qui s'étiolent et qui crèvent. Je ne veux pas d'enfants qu'on s'épingle en médaille, qu'on arbore clinquant bien avant la bataille. Je ne veux pas d'enfants pour la paix des ménages. Petit témoin tremblant des couples en naufrage. Je ne veux pas d'enfants. Je ne suis pas normale. J'ai déserté les rangs du troupeau génital. C'est comme si j'étais pute, féministe et violente. Enfin cette pègre qui fait peur à tout le monde.
Cette pègre qui fait peur à tout le monde.
Je ne veux pas d'enfants. Je gueule à la face de ce monde de grands assassins et rapaces.
De grands assassins et rapaces. Pas d'enfants pour vos guerres.
Vous les ferez sans lui. Dans le sein de sa mère. Elle objecte sa vie.
Elle objecte sa vie. Dans le sein de sa mère. Elle objecte sa vie.
Un enfant, si je veux.
Alors maintenant, on va aborder tout le côté justice, les affaires qu'il y a eu dernièrement en France, la tôle et puis les conditions d'IVG. Du coup, il faut savoir que l'infanticide, il a surtout été pénalisé à partir de 1810 dans le code pénal sous Napoléon. Et du coup, c'était la peine de mort pour les femmes qui étaient accusées d'infanticide. Et puis après, il faut attendre 1994 pour que la loi soit transformée. Et du coup, à partir de 1994, la loi, elle se transforme et on ne parle plus d'infanticide, on va parler de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Et avec des circonstances aggravantes quand l'auteur est un ascendant direct. C'est-à-dire la mère ou le père, en gros. Et la peine, à ce moment-là, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Le jugement a lieu en cour d'assises, sauf quand il n'y a pas preuve que le nouveau-né a vécu, auquel cas ça se fait en tribunal correctionnel. Alors, dans les différentes affaires qui ont lieu en France, en fait, il n'y a jamais eu réclusion criminelle à perpétuité pour les femmes qui sont passées en cour d'assises. Mais des peines qui sont quand même extrêmement longues. Et du coup, il faut savoir que dans chaque affaire qui ont été assez médiatiquement portées, les femmes ont été soit décrites comme des monstres, et puis elles ont été surtout fortement psychiatrisées. On va toujours chercher des raisons psychiatriques à pourquoi une femme va tuer son enfant et pas du tout des raisons sociales.
Oui, il y a des circonstances aggravantes pour les peines et des circonstances atténuantes. Et du coup, dans les circonstances atténuantes, on parle de déni de grossesse, on va victimiser avec des recours psychologisants de pourquoi il y a eu déni de grossesse, blablabla.
Alors du coup, dans les différentes affaires, il y en a une en mars 2010 qui a un peu défrayé la chronique, c'était l'affaire Le Sage, où du coup c'était une femme qui est passée en procès pour six nouveau-nés tués. Et donc elle a eu 15 ans de réclusion criminelle. Et donc là, la circonstance aggravante, c'est justement qu'il y en avait 6. Et donc 15 ans de réclusion criminelle, on lui a demandé également un suivi socio-judiciaire de 10 ans, et avec une peine de 5 ans supplémentaire en cas de non-respect. Donc ça, c'est une des peines les plus lourdes, je crois, qui a été mise. Sinon, il y a eu l'affaire Courgeot avec un procès en 2009, où du coup il y a eu 8 ans de réclusion criminelle pour du coup la femme, et puis comme par hasard le mari est mis hors de cause parce que comme bien souvent il n'est pas au courant, il ne s'est pas rendu compte, etc., etc. Un autre cas qui est assez horrible, c'était en février dernier, on n'en a pas encore parlé parce que je pense le procès n'est pas encore là. Mais du coup, cette fois, c'est une femme qui s'est dénoncée au procureur pour deux infanticides. Et alors, il faut savoir que, en fait, c'est une femme qui était, après ces infanticides, qui a eu du mal à s'en remettre, en tout cas qui était dans un truc de un peu de dépression, etc. Aussi dans, enfin, faut savoir que à ces moments-là on vit la situation seule, que on peut en parler à personne parce que justement on risque de se retrouver en taule, etc. Et que du coup forcément il y a ce truc-là à un moment donné de ben quand tout ça repose sur ses épaules dans un truc que moralement c'est inadmissible, c'est mal vu, etc. Et ben c'est compliqué de vivre avec. Du coup elle est allée voir un psy. Et voilà, le psy, ce qu'il lui a conseillé, c'est d'aller se dénoncer. Et c'est assez horrible, et c'est là où on voit aussi le travail de flic que font les psys. Parce que c'est pas, je veux dire, bien sûr qu'on va pas mieux en allant se dénoncer et en allant en tôle, c'est pas vrai quoi. Et juste que ce qu'il aurait fallu à cette personne, c'est un soutien. C'est des personnes qui puissent l'écouter sans la juger, qui puissent se poser des vraies questions de pourquoi à un moment donné on en vient à tuer des nouveau-nés dans un contexte social, dans un contexte économique, etc. Et que là, le psy, la proposition qu'il lui fait, c'est allez vous dénoncer et puis allez en tôle en fait. Et ça va être trop bien pour vous, vous allez voir. Et c'est horrible en fait de sa part, dans un truc de rapport de pouvoir du psy sur une personne qui à ce moment-là ne va pas très bien, etc. Et puis on voulait parler aussi, ça se passe pas en France, ça se passe en Belgique. Mais du coup, en Belgique, il n'y a pas très longtemps, là, c'est la première fois qu'une femme est relaxée, enfin, en tout cas acquittée, pour déni de grossesse. Donc c'était le 17 mars 2010. Et du coup, il y a une reconnaissance en Belgique du déni de grossesse, c'est-à-dire qu'une femme ne se rend pas compte qu'elle est enceinte et accouche sans savoir qu'elle est enceinte, sans avoir jamais su qu'elle est enceinte, etc. Et que du coup, voilà, en Belgique, ça a permis qu'une femme soit acquittée et sorte de tôle. Elle a quand même passé 2 ans en tôle, il faut savoir.
Donc la tôle, on en parle. Donc c'est des peines longues pour infanticide. Et bien sûr, là, il faut redire que n'est infanticide qu'une femme qui s'est fait choper, sinon... Sinon, il n'y a pas de tôle, il n'y a pas d'acte jugé là-dessus. Elle s'est... voilà. Et donc, dans les conditions de prison, en prison, les 2/3 des femmes ont des enfants, et dont elles sont le plus souvent séparées. Et la maternité est au centre des préoccupations et des conversations. Et elle permet de garder un statut quand l'incarcération nie socialement les individus. Et elle constitue une base commune entre les détenus, voire avec les matones. Donc il serait naïf de croire que le secret concernant les dossiers est respecté. Les matones ont vite fait de signaler la présence d'une « infanticide », entre guillemets. Et celle-ci est appelée « pointeuse ». Vous voyez, les pointeuses, au même titre que les violeurs sont appelés « pointeurs ». Donc elle est la plupart du temps isolée, voire maltraitée par les détenus et le personnel pénitentiaire. Elle se voit donc doublement condamnée par la justice et par ses pairs, puisque doublement coupable, donc d'un délit contre la loi et d'un délit contre l'ordre moral.
Alors Manon, on voulait juste rappeler un peu les conditions d'interruption volontaire de grossesse en France. Et aussi rappeler un peu en ce moment, en fait, comment en fait c'est pas si simple d'avorter, ça l'a jamais été et puis ça l'est toujours pas. Alors en France, on peut se faire avorter jusqu'à 12 semaines, donc ça c'est depuis 2000 ans, avant c'était 10 semaines. Et puis il y a une enquête de 2005 qui montre que qu'il y a 47% de refus de prise en charge des IVG à l'issue d'un appel téléphonique. Ce pour diverses raisons, parce qu'il n'y a pas le temps, parce que les délais sont dépassés, ou parce que aussi géographiquement ça ne correspond pas au même secteur, etc. Et du coup c'est énorme, 47% de refus. Et puis aussi la date d'intervention de l'opération, elle est dans 25% des cas fait 2 à 3 semaines après un appel téléphonique. Alors, ce qui est énorme comme délai quand on sait qu'on n'a que 12 semaines, c'est-à-dire qu'il y a le temps de se rendre compte qu'on est enceinte, et puis ensuite le temps d'appeler, de prendre des rendez-vous avec les médecins, nanana, et 2 à 3 semaines après, c'est la date d'intervention, ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de chances qu'on dépasse le délai autorisé légal, en tout cas en France. Et puis, une autre chose, et qui a été dite aussi dans le reportage, c'est qu'en fait, la plupart des établissements, 94% des établissements, l'IVG est pratiqué en fonction des plages horaires laissées libres par les autres activités. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui est mis de côté. Voilà.
Et donc, le troisième point qu'on voulait aborder, c'est mais où sont les hommes dans cette histoire ? Dans ces histoires. Donc il n'existe pas beaucoup, voire presque pas du tout, alors qu'ils ont joué un rôle quand même dans le fait qu'une femme ait un fœtus dans le ventre. Dans les procès, dans énormément de situations, ils sont complètement inexistants, voire ils ont dénoncé... les femmes quand ils ont retrouvé des fœtus dans leur penderie ou je sais pas. L'homme n'est pas vu comme naturellement père alors que la femme est vue comme naturellement une mère. Et donc à partir de là, son rôle est toujours oublié. Et donc, on le voit bien, par exemple, dans les exemples, vous voyez, il y a quelques années, je crois, peut-être l'été 2008 ou l'été 2007, je ne me rappelle plus, mais il y avait eu plusieurs affaires de bébés morts dans des voitures parce que les parents les avaient oubliés. Et bien, dans ces histoires, ça a été une majorité de pères qui ont oublié leurs enfants. Et la plupart ont été relaxés, sont passés en procès et n'ont pas eu de peine, alors que c'est arrivé à une femme qui a été condamnée. Donc, on voit bien la différence entre le statut de père et la femme comme mère qui est beaucoup plus condamnée et voilà. Et on dit les hommes, mais il y a quand même certains hommes qui sont rendus responsables. Et c'est pareil que tout à l'heure, c'est pas n'importe lesquels. Et on retrouve des histoires d'hommes. De milliers considérés comme arriérés ou barbares. Ils sont plus volontiers considérés comme complices ou au moins mis sous les feux de la rampe. Donc un journal évoquait en novembre 2008, entre guillemets, le père qui l'aurait égorgé s'il avait appris qu'elle était enceinte. Toute la famille dans le petit appartement qui n'a pas remarqué, rien vu. Donc bien sûr, cela se passe en banlieue et les parents, les deux sœurs et les trois frères devront répondre à l'enquête et témoigner devant la cour d'assises. Donc c'était pour signaler qu'on est dans un pays extrêmement raciste et avec une justice raciste. Et du coup, c'est à ces moments-là qu'apparaissent la présence des hommes comme par hasard, parce que c'est des hommes qui sont racisés.
Voilà, et ben on arrive au bout de notre émission.
Oui, on va vous donner quand même quelques pistes parce qu'une heure c'est court hein, pour développer un sujet tel que celui-là. Donc moi je vais vous redire ce livre Donc il s'appelle Réflexion autour d'un tabou, l'infanticide. C'est un ouvrage collectif. Vous pouvez vous le procurer dans les librairies en le demandant. Et sinon, vous pouvez contacter, je vous donne une adresse mail pour le trouver. Donc c'est Bob Borno, c'est bborno@gmail.com. Et donc j'ai aussi cité l'ouvrage qui s'appelle Avorter, histoire des luttes et des conditions d'avortement des années 60 à aujourd'hui. Donc bien sûr, ça ne parle pas d'infanticide, ça parle d'avortement. Et donc ça vaut le coup de mentionner quelques films aussi.
Ouais, c'est plus des films qui traitent d'avortement. Du coup, il y a un film anglais qui s'appelle If These Walls Could Talk, si ces murs pouvaient parler, et qui reprend un peu l'histoire de l'avortement de, je crois, 1950 jusqu'aux années 2000. Voilà. Et puis, il y avait un documentaire qui est paru à la télévision sur le procès de Bobigny, qui a été le procès d'une mère et de sa fille, la mère ayant aidé sa fille à avorter. Et donc, et avec. Bref, c'était l'affaire qui, a, à un moment donné, fait que la loi Veille, etc., a été ensuite votée. Et voilà, c'est un documentaire qui s'appelle, je crois, juste Le procès de Bobigny. Puis un film qui s'appelle Regarde, elle a les yeux grands ouverts.
Donc, ça, c'est un film qui ne touche pas à l'avortement, mais à l'infanticide, mais plus au choix en fait d'avoir des enfants, du coup de pouvoir avorter. Et du coup, c'est des groupes qui pratiquent illégalement l'avortement, des groupes de femmes en non-excité, et du coup qui font un vrai accueil à des personnes qui décident d'avorter, et puis des personnes qui décident d'accoucher elles-mêmes, et pareil, pas de manière médicalisée, mais dans des groupes de femmes, quoi. Et donc voilà, ce film est autour de ça. Et parle aussi de procès de personnes qui sont accusées de pratiques illégales de la médecine parce que des médecins et d'autres personnes avaient pratiqué des avortements considérés à l'époque illégaux. Voilà les quelques pistes qu'on peut vous donner.
L'agenda de la semaine.
De l'actualité de ce dimanche.
Le 28 juin, le 30 mars,
le 3 décembre.
Prochainement.
Donc, l'agenda. Alors, deux choses dans notre agenda. Est-ce qu'il y en a plus ? Non. Donc, à Grenoble, région Rhône-Alpes, donc, c'est la 9e édition du festival Vue d'en face. Donc, c'est un festival international du film gay et lesbien du 20 au 27 avril. Donc, il y a 16 nationalités, c'est ça en fait. Oui, non, mais ça. Je reprends des notes que j'ai pas écrites moi. Du coup, voilà.
C'est ça, il y aura des films de 16 nationalités différentes à ce festival qui a commencé le 20 avril et qui se termine le 27.
Et donc, pour plus d'infos, c'est Vue d'en face. Donc, vuesdenface.com. Et l'autre info, c'est ce soir, maintenant, tout de suite à la Guillotière à 19h. Donc, c'est à la maison de la Mésopotamie. Venez, en plus, vous pourrez nous voir, on sera là-bas aussi. Donc, c'est 11 rue Mazin-Grand pour les gens qui ne connaissent pas. Et donc, c'est une soirée de soutien à des militantes antimilitaristes kurdes et turques et à une asso LGBT d'Izmir. Du coup, c'est une soirée en soutien à ces deux groupes parce que, aussi, notamment, à Izmir et Ankara, ces deux groupes sont assez liés et se font, et il y a des solidarités et des alliances entre asso LGBT et militantes anti-militaristes. Et donc il va y avoir la projection du film La Terreur Transsexuelle et plusieurs groupes de rap et du coup un concert de rap, et voilà, et c'est une soirée sans alcool. Et donc c'est prix libre en solidarité du coup à ce que je viens de dire, et puis avec aussi des boissons prix libre.
Eh bien, il est l'heure de terminer cette émission.
Tout à fait.
Du coup, la semaine prochaine, c'est Lilith, Martine et les autres. Et puis nous, on se voit dans deux semaines.
Ah, et ça sera avec quel thème ?
Eh bien, il me semble que c'est le thème sur nos grands-mères.
Ah.
Du coup, avec l'interview d'un PD des Flamants Roses. On va se quitter avec une dernière chanson.
Ouais, bonne soirée. Venez nombreuses à la maison de la Mésopotamie tout à l'heure.
Voilà, on se quitte avec La Sorcière de Colette Mani.
Ciao.
Ciao, salut.
Nous sommes en amour avec une sorcière vêtue de cuir qui de peau de dents grattées, la gueule en papier de verre, sein de soie teinté qui s'embêtant, tête de plomb, cœur en velours côtelé, sexe d'amiante. Des cornichons, des candélabres sur les clairs ou blancs, des képis et vêtements de gendarmes, un voilier perdu dans les parcs à huîtres, au grenier, capuchoupi, vieille chaussure, terre cirée aux cuites, vieille serpillère, corde armée. La sorcière est toujours là. Mon bocal est trop petit, hurle-t-elle. Mon bocal, il est trop petit, hurle-t-elle.